On va partager quelques versets d'Écriture ensemble. Et alors, on va lire un texte, s'il vous plaît, dans l'Épître aux Hébreux. Dans l'Épître aux Hébreux, c'est juste un texte de référence. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, et verset 7. Voilà, on va parler des rapports familiaux. Parce que en y réfléchissant et en regardant dans l'Écriture, je me suis aperçu qu'il y a énormément de choses qui sont dites par rapport à cela. Et d'ailleurs, c'est peut-être à notre honte, d'ailleurs, nous, les hommes, c'est que derrière tous ces rapports familiaux, devrais-je parler davantage des conflits familiaux ? Parce que malheureusement, c'est le sort et c'est le lot d'un petit peu de tous les hommes. Mais il y a quand même de l'espoir et pour nous, par la foi, nous pouvons espérer en la fidélité de Dieu. Et dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, il est dit ceci. C'est par la foi, verset 7, que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. Noé a montré de l'ardeur à l'ouvrage. Ça a mis du temps quand même pour construire l'arche. Mais vous le savez certainement que malgré ces dizaines et dizaines d'années qu'il a fallu pour la bâtir, le fait est qu'elle a été bâtie. Et le fait est qu'à la sortie, une fois que l'arche a été construite, 8 personnes ont été sauvées. Qui donc ? Noé, son épouse, ses 3 fils et ses 3 belles-filles. Et j'aime beaucoup ce qu'il est noté dans l'Épître aux Hébreux, parce qu'il me semble qu'il y avait 2 raisons, au moins pour lesquelles Noé a mis de l'ardeur à l'ouvrage. La première de ces raisons, c'est qu'il a voulu obéir à Dieu. Il est signalé qu'il a été saisi d'une crainte respectueuse. S'il nous arrivait un peu plus souvent d'être saisi d'une crainte respectueuse, combien de choses nous ne ferions pas, combien de choses nous ne dirions pas, forcément. L'idée de l'obéissance, l'idée d'être sensible à la voix de Dieu. Mais ça n'a pas été que la seule raison. Certains, sous prétexte d'obéir à Dieu, ont été littéralement un objet de carnage dans leur propre environnement, dans leur propre famille. Lui a souhaité obéir à Dieu, mais sauver sa famille aussi. Et je voulais m'arrêter sur cette idée-là. Ce que nous représentons, nous, alors, on va tous se mettre dans la même arche, hein, dans le même bateau, finalement. On va tous s'appliquer, finalement, ces préceptes et ces conseils. Et vous allez voir que l'on soit conjoint, que l'on soit parent, que l'on soit enfant, que l'on soit cousin, que l'on soit, bref, de la même famille. Et là, je ne vais pas m'adresser à la famille de Dieu en général, je m'adresse à la famille. La vraie famille, c'est-à-dire vous, vos enfants, vos conjoints, etc., votre conjoint, etc. Donc, 2 raisons qui ont fait que la vie de Noé a été une réussite, c'est qu'il a obéi à Dieu et c'est qu'il a pu, par ses actions, par sa foi, être un instrument de salut pour toute sa famille. Prédicateur de la justice, il a condamné le monde, mais sa famille a été sauvée malgré tout. Alors, ça a fonctionné. Puisque Genèse chapitre 8, versets 15 et 16, nous dit que toute la famille s'en est sortie. Alors Dieu parla à Noé en disant « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux qu'il y avait placés, etc. » Donc sa famille a été à l'abri et ils ont démarré une vie nouvelle. Malheureusement, ça n'a pas toujours marché. Et j'insiste en disant que les conflits familiaux sont nombreux, trop nombreux, à notre honte, beaucoup trop nombreux, que l'on soit chrétien ou pas chrétien, mais on s'adresse à nous en tant que croyants, chrétiens. On ne va pas commencer à juger ce qui se passe en dehors parce qu'il y a 100 000 raisons à cela. Mais nous qui sommes chrétiens, il y a 100 000 raisons pour que ça n'arrive pas. Pourquoi ça arrive ? Pourquoi tant de disputes et de conflits ? Pourquoi tant de situations qui finissent par être destructrices ? C'est ravageur, ça fait du carnage, ça détruit, ça ne construit pas. Alors j'ai trouvé quelques exemples et malheureusement, ce ne sont pas les seuls. Mais il fallait bien en choisir quelques-uns et surtout pour ne pas être trop long. Donc on va revenir sur quelques situations et vous allez voir que c'est étonnant la manière dont quelquefois la dispute s'installe, comment quelquefois le conflit dégénère. On est surpris d'ailleurs, ça part de rien et d'un coup ça devient vraiment conflictuel. On va regarder tout au début. Je me suis intéressé à Abraham et à Lot. Assez curieusement, c'est parce qu'ils étaient trop riches qu'il y a eu un conflit. On trouve ça dans la Genèse. On va faire plusieurs lectures. Hein. Si vous avez votre Bible ouverte, regardez avec moi. Genèse, chapitre 13, versets 5 et 7. Si vous avez la Bible, c'est bien parce que tout le verset n'est pas mis à l'écran, vous remarquez. Genèse 13, verset 5. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Et les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient, et c'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs devant l'Éternel. Ils sont trop riches. Et c'était en biens matériels, bœufs, cheptels, etc. Et de fait, ils sont trop à l'étroit. Et à un moment donné, ce qui devait arriver arriva, c'est que Abraham ne s'est pas réellement disputé avec Lot. Il n'y a pas de conflit direct, il y a juste eu des conflits indirects, des conflits parallèles. C'est-à-dire que ce sont les bergers de l'un qui se sont disputés avec les bergers de l'autre. Alors, est-ce que c'est pour un point d'eau? Est-ce que c'est pour une pâture? Est-ce que c'est pour, je ne sais pas, placer en premier, prendre le chemin en premier pour aller jusque sur une terre de pâture, aller savoir? Tout est prétexte, souvent, pour un conflit, une dispute. Et si vous ne savez pas à quoi penser pour vous disputer, le diable a plein d'idées en tête. Et il va vous en donner quelques-unes, certainement. Très rapidement, ça viendra. Le fait est que, là quand même, on se trouve dans une situation un petit peu surprenante, c'est que ce ne sont pas, j'insiste, Lot et Abraham directement qui ont un problème, mais ce sont leurs employés, ce sont ceux qui travaillent avec eux. En fait, il fallait dialoguer, certainement, il aurait fallu se mettre au milieu pour essayer de calmer la chose. Sauf que dans cette histoire, personne n'a pris les devants, personne ne l'a fait. C'est terriblement compliqué hein, que d'être médiateur. C'est pas vrai? Quelquefois, d'ailleurs, on veut même pas s'en mêler, on dit « débrouillez-vous hein. ». D'ailleurs, je m'en suis souvent mêlé. Et quelquefois, d'ailleurs, je m'en suis mordu les doigts. Parce que même quand vous vous en mêlez, et vous dites « ça y est, on a réglé le problème », ça se retourne contre vous. Et vous dites « mais c'est pas possible. Moi, j'y suis pour rien. Et les ennemis d'hier sont devenus les amis d'aujourd'hui. Mais quand même... » Fallait régler le problème. C'était facile à régler le problème. Certainement une question de timing, certainement une question de faire descendre un petit peu la pression. Sauf que ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. Trop riche, trop capricieux peut-être. Je pense à Lot, je ne pense pas à Abraham. Vous avez vu que Abraham a laissé son neveu choisir. Et qu'est-ce que Lot a fait? Ben, il a regardé et il a choisi juste à son idée ce qui était le plus simple. Il a choisi la facilité, il a choisi ce qui était le plus pratique, il a choisi la plaine. C'est plus facile, certainement, de s'installer dans une plaine que dans les montagnes, là où il n'y a que du caillou, certainement. Mais il n'a pas considéré l'âge de son oncle, il n'a pas considéré ne serait-ce qu'un peu de respect. Non, non, il a considéré ses propres intérêts et il a fait le choix. J'aime beaucoup l'attitude d'Abraham, évidemment, qui a laissé son neveu choisir. Il a eu une attitude très sage. En fait, ce que Abraham souhaitait, c'est que s'il se sépare, il reste proche quand même. Un conflit peut diviser à tout jamais. Et on peut habiter sous la même maison, dans le même quartier, et être totalement en conflit. Lorsque j'étais sur Nice, il y avait un quartier, ça ne s'invente pas, le quartier Pasteur, où il y avait énormément de chrétiens. Énormément de chrétiens. Et c'était des quartiers sensibles, dits sensibles. Donc énormément de chrétiens gitans habitaient dans le quartier. Et vous savez qu'il y avait beaucoup de gitans, mais qu'une famille, forcément. Ils s'appelaient tous Cortés ou Torres. T'étais tous les mêmes, t'étais tous cousins. D'ailleurs, à un moment donné, il y a tellement eu de conversions, ça a été extraordinaire, le travail de Dieu, qu'on en a baptisé des dizaines par an, et ça a duré pendant plusieurs années. Et quelquefois, on a envoyé certains qui se faisaient baptiser, ils se ressemblaient tellement, entre cousins, entre frères, qu'on se disait, mais il n'est pas déjà baptisé, lui ? Non, non, c'est mon frère. Non, non, c'est mon cousin. Mais c'est formidable, hein ? Sauf que le jour où il y a une histoire dans la famille, ben là, c'est pas formidable. Hein. Parce que là, ce sont les clans. Hein. Chacun prend parti d'un côté et de l'autre. Alors le problème, c'est qu'ils peuvent pas déménager. Ils vivent dans du dur, hein, dans des immeubles. Alors ils vivent tous au même endroit, mais ils se parlent plus. C'est pas spécifique. Évidemment, à quelques familles que ce soit, gitans, français, c'est la même chose. Hein. Abraham s'est dit, c'est pas grave si on se sépare, mais qu'au moins on reste proche. Il n'y a rien de plus terrible que d'être très proche et de ne plus se parler et d'être totalement divisé à l'intérieur de la cellule familiale. Il n'y a rien de plus tragique que cela. Et Abraham l'a refusé. Abraham ne l'a pas voulu. Donc il a tout fait pour que ça n'arrive pas. La Bible dit que celui qui voudra sauver sa vie, il la perdra, même si c'est dans un autre domaine. On comprendra que Lot a failli perdre sa vie parce qu'il a choisi les rives de la mer morte, il a choisi Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Tsoar comme une plaine arrosée, comme un jardin de l'Éternel, un jardin de délices. Mais le résultat, c'est que quelque temps plus tard, le jugement de Dieu va s'abattre, et si précisément son oncle n'était pas intervenu, il serait certainement mort lui aussi. Malgré qu'il tourmente son âme, malgré qu'il ait été déclaré juste, il y a eu un contexte relativement difficile, et dans cette histoire, il a perdu des gens de sa famille quand même. Donc à un moment donné, je crois que méfions-nous de ce qui semble être une richesse. Les richesses ne sont pas toujours nos meilleurs alliés. Et quelquefois, on est riche parce qu'on est en santé. On est riche parce qu'on a, je ne sais pas moi, un bon métier, une bonne carrière. On est riche parce qu'on a une superbe famille. Et puis, quelquefois, on ne se rend pas compte que ça reste précieux et ça sous-entend fragile et qu'il faut prendre garde à la manière dont on gère tout cela. Maintenant, Abraham n'en a pas fini, parce qu'Abraham a manqué de patience. Et en général, quand on manque de patience, c'est toujours l'objet d'un conflit. Tôt ou tard, il y aura un conflit. Abraham a été interpellé par Dieu, et Dieu lui a dit qu'il aurait un fils, il aurait une postérité. Sauf que les années passent, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, le temps passe, pas d'héritier. Alors on commence à s'impatienter. Hein. Voilà M. Abraham qui s'impatiente. Il s'énerve un petit peu. Alors on a trouvé une solution. Et Sarah a dit à son époux, écoute, moi je ne peux pas te donner d'enfant. J'ai une servante, c'est une égyptienne. Elle s'appelle Agar. Je te propose de la prendre comme concubine. Puis avec elle, on aura un héritier. Sur le papier, ça semble bien. Ça se faisait, hein, ça se pratiquait à l'époque. Sauf que spirituellement parlant, ce n'est pas exactement comme ça que Dieu voyait les choses. D'ailleurs, si Dieu avait dit que ça devait se passer comme ça, je pense qu'il l'aurait compris 20 ans plus tôt. Hein. Ce n'était pas la peine d'attendre. Non, non, ce n'était pas comme ça. Dieu avait dit avec ton épouse, avec ta femme, vous aurez un fils. Comme ça ne vient pas, on s'est impatienté donc. Et Sarah a donné sa servante à Abraham et elle s'est retrouvée enceinte. Et elle a enfanté un fils. Sauf que, très rapidement, ça s'est envenimé, pour de bon. Et la soupe n'était pas terrible à la maison. Pourquoi ? Parce qu'Agar, quand elle s'est trouvée enceinte, elle a méprisé sa patronne. Elle a regardé Sarah avec mépris en disant « Voilà, toi, tu n'as jamais pu donner un fils, tu n'as jamais pu donner un enfant à ton mari. Moi, j'ai pu. Regarde, je suis enceinte maintenant. » Et ça, ce n'est pas du tout passé. Sarah n'avait pas du tout prévu que ça allait se terminer comme ça. Elle n'avait pas du tout prévu cela. Alors, elle va se disputer avec sa servante, elle va l'opprimer et elle va l'obliger à s'en aller, elle va fuir. Elle va s'en aller bien loin de la maison. Dieu va la rattraper. Il va lui demander de rentrer à la maison. Elle va le faire malgré elle, quand même. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant, c'est Dieu qui dira à Agar, « Tu donneras à ton fils le nom d'Ismaël. » Et plus tard, quand vous regardez le texte biblique, vous apprenez que Abraham donna à son fils le nom d'Ismaël. En fait, c'est Dieu qui l'a donné, mais c'est quand même par l'entremise de la maman, et c'est quand même Abraham qui a écouté Agar pour dire, alors, on va l'appeler comment ? Il faut l'appeler Ismaël. Il s'est soumis à cela. Il a accepté. C'est très intéressant, cela. Et puis, ça ne s'est pas terminé, parce que quelques temps plus tard, Sarah est tombée enceinte. Et voilà qu'Isaac naît. L'un est l'enfant de la chair, comme dit la Bible, c'est-à-dire on est arrivé à avoir un enfant, mais par nos propres forces, par nos propres moyens, tandis que l'autre sera l'enfant de la promesse, le fameux Isaac, qui est celui que Dieu a donné. Et puis quand vous avez les deux maintenant, ben vous êtes à nouveau en conflit, parce qu'au départ, l'héritage était prévu pour un seul. Maintenant, il y en a deux, on fait comment ? On partage l'héritage ? Certainement que Abraham voyait les choses comme ça, mais Sarah pas du tout, Dieu non plus d'ailleurs. Et Sarah va être obligée de, là aussi, taper du poing sur la table, et elle va dire à son mari, « Agar, Ismaël, j'en peux plus. Je veux que tu les éloignes, je veux qu'ils partent. Il est hors de question que ce bâtard, que cet enfant, hérite avec notre fils. » Essayez de vous mettre un instant à la place d'Abraham. Ce n'est pas le seul fautif, tout le monde est fautif dans cette histoire. Peut-être que la seule qui le serait un petit peu moins, et encore il y a eu des écarts, ce serait Agar, mais quand même. Quand on y regarde bien, vous avez un homme, Abraham, qui est père de deux enfants, qu'il a eu avec deux femmes différentes. Aujourd'hui, les familles recomposées, ça existe. Et après avoir été décomposées, elles sont recomposées. Et je ne sais pas si elles finissent pas quelquefois, malheureusement, par se décomposer à nouveau. Parce que ça crée des tensions, des conflits. J'en reste à notre milieu chrétien. Il est évident que Dieu nous a, entre guillemets, préservés. Parce que la volonté de Dieu, c'est que l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme et que tous les deux deviennent une seule chair. Le divorce n'a jamais été dans le plan de Dieu. Malheureusement, c'est ainsi. Ça arrive trop souvent, c'est toujours un drame, c'est toujours une difficulté, c'est toujours une peine. Mais si vous êtes encore marié avec votre et seule unique femme, faites tout pour préserver votre union, parce que ça c'est le plan de Dieu. Regardez dans quelle situation il s'est retrouvé, pas bon gré mal gré, parce que c'est quand même bon gré, ils l'ont quand même voulu cela. Mais vous avez un homme, Abraham, qui est en souffrance pour Agar, parce qu'il lui a donné un fils, et il voit qu'elle est maltraitée, il voit qu'elle s'enfuit, qu'elle est obligée de revenir, il voit que plus tard, sa propre femme est en souffrance, elle aussi, parce qu'elle n'a pas pu avoir d'enfant, et ça s'est si vite fait avec quelqu'un d'autre. Imaginez la détresse. C'est insolutionnable. Humainement parlant, vous n'avez pas de solution dans ces situations-là. Et là, on se retrouve dans une situation très embarrassante, parce qu'il voit la souffrance de la mère de son enfant. Mais quand Sarah lui dit « Maintenant, tu les chasses tous les deux », il va voir la souffrance et il peut imaginer la souffrance de son fils, duquel il est obligé de se séparer aussi. Bref, il n'y a que des perdants. Aucun gagnant. Il n'y a que des perdants. Dans les conflits familiaux, il n'y a que des perdants. Il n'y a jamais de gagnant. Le diable gagne. Mais à part lui, tous les hommes perdent forcément. Je crois que cette histoire, je pense que vous êtes d'accord avec moi, elle n'aurait jamais dû exister. Elle n'aurait jamais dû exister. Si on n'était pas tombé sur un homme juste un peu impatient, ou une famille, parce que son épouse aussi l'a été, juste un peu impatient, on ne serait jamais arrivé à cela. Frères et sœurs, on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on trouve. Quand on lâche quelque chose, on ne sait pas exactement ce qu'on perd. Donc que Dieu nous garde de manquer de patience et que Dieu nous donne d'être sages. Maintenant, il y a d'autres exemples que l'on trouve un petit peu plus loin et qui nous ramènent aussi à cette vérité. Pénina et Anne, deux femmes. À l'époque, les couples étaient quelquefois polygames, ça existait. Donc là, on a affaire à un homme marié avec deux femmes. Et c'est compliqué là aussi. Il y a pas mal de difficultés. Ce n'est pas un Samuel 16, c'est un Samuel 1. Il nous est dit que cet homme avait deux épouses et que l'une pouvait avoir des enfants, l'autre pas. Pénina, en l'occurrence, avait eu l'opportunité de donner plusieurs enfants, des garçons, des filles, à Elkana, son mari. Mais par contre, Anne n'y arrivait pas. La Bible dit que l'Éternel l'avait rendue stérile. Elle a du mal à tout expliquer. Le fait est qu'elle n'avait pas d'enfant. Imaginez un peu la souffrance de l'une et de l'autre, finalement. J'ai bien aimé cette petite photographie. On a du mal à voir la tête de la petite fille tout à droite. Mais elle n'est vraiment pas contente. Hein. Je ne sais pas si c'était son amoureux de l'autre côté. Et si quelqu'un lui a volé la préférence, mais franchement, elle n'est pas contente. Hein. Elle dit, c'est pas normal ce que tu fais là. On en sourit parce que c'est des enfants. Maintenant, donnez-leur 20 ans de plus. Et là, on rigole plus. Parce que c'est la tragédie d'aujourd'hui. C'est la réalité du monde d'aujourd'hui. C'est la réalité du monde d'aujourd'hui. D'ailleurs, je pense que la télé n'aide pas. Internet non plus. Je pense que tous ceux dont on nous abreuve, sous prétexte de tolérance. Ça nous amène dans de profondes dérives. J'en viens à mon texte tout de même. Entre ces deux femmes, on peut parler de rivalité, plus de la part de Pénina d'ailleurs, que de la part d'Anne. Parce que, en fait, Pénina est en colère, parce qu'Elkana aime ses deux épouses. C'est certainement compliqué, mais bon, il les aime les deux quand même. On imagine qu'il les aime pareil. Sauf que comme l'une est comblée avec des enfants, l'autre pas, ben il essaye de combler le vide autrement. Donc, il donne tout ce qu'il faut à l'une et à l'autre. Il a envie de donner une double portion, histoire de consoler les blessures de son cœur, consoler sa peine, consoler sa souffrance. Il essaye de faire ce qu'il peut. Et chose incroyable, c'est que celle qui a les enfants, Pénina, voyant cela, est jalouse. Elle est en colère. Elle dit, c'est pas normal que tu donnes plus à Anne. Alors elle va prodiguer des mortifications à Anne. Et je l'imagine souvent, on peut tout imaginer, mais je l'imagine avec son dernier-né, et s'approcher d'Anne, et s'amuser avec son enfant, puis la regarder en disant, tu vois, ça tu l'auras jamais toi. Ça tu en profiteras jamais. Ça t'arrivera jamais. Ou d'autres fois, s'amuser avec ses enfants, imaginer que quelques-uns aient grandi et qu'ils soient un petit peu turbulents, aujourd'hui on dirait hyperactifs, et que dans la maison, ils se soient disputés, etc., et que Anne, sous un moment, était un peu fatiguée, en colère, réprime l'un d'entre eux, on voit Pénina arriver, « Hé, tu touches pas, c'est mon fils, c'est pas le tien !» Imaginez les conflits, imaginez la souffrance, la douleur, là aussi. C'est tellement précieux une famille, non? Oui ou non? C'est tellement précieux une famille. C'est tellement important. C'est un diamant dans un écrin. Hein. Faut tout faire pour le préserver, pour le garder. Tout faire. Là, le pauvre Elkana, il y est pour rien. Hein. Manifestement, il y est pour rien. Les choses se sont faites de cette manière-là. Qu'est-ce qu'il peut y faire? Le fait est que, pour être aimé, faut certainement commencer par être aimable. Et Pénina se rendait pas aimable en agissant de la sorte. Anne, de son côté, ne semble pas répondre à la colère, ne semble pas répondre aux invectives. Elle semble beaucoup plus posée. À chaque fois que Pénina prodiguait des mortifications, l'humiliait, se moquait d'elle, ben Anne se retirait et Anne pleurait. Le résultat de tout ça, c'est que Dieu connaît la douleur. Dieu connaît la souffrance, il est capable de recueillir toutes nos larmes, il est capable d'entendre le cri de nos larmes, il connaît toutes ces choses-là, Il est évident que seul Dieu pouvait guérir dans cette situation-là ceux qui souffraient. Il aurait pu guérir Pénina, qui ne se sentait pas assez aimée, et il pouvait combler Anne en lui donnant des enfants. Et ça ne tardera pas d'ailleurs. Quelque temps plus tard, alors qu'elle est dans le sanctuaire à Silo et qu'elle répand sa douleur devant Dieu, il nous est dit que Dieu va entendre et que le sacrificateur, le prophète Élie viendra, celui qui est sacrificateur à cette époque-là, qui tient ce sanctuaire, et il va lui dire, promettre de la part de Dieu que l'année d'après, elle serrerait un enfant contre elle, un fils, et Samuel va naître, l'enfant que Dieu a promis, l'enfant que Dieu a donné. Je crois, là aussi, que quand on ne se sent pas aimé, forcément, on a tendance à réagir. Et je pense à Pénina, elle ne se sentait pas aimée, ou en tous les cas, elle a été jalouse de quelque chose. Et ça a provoqué beaucoup d'animosité. Combien de fois pourrait-on éviter de telles situations, simplement en considérant qu'on n'est pas si mal aimé que cela? On n'est pas si mal aimé. D'ailleurs, souvent ce que l'on voit, c'est que quand on ne va pas bien, en général, on rejette la faute sur les autres. Il y a des séries de sketchs qui passent à la télévision où vous avez des couples qui sont mis en scène. Il y a des années de ça qu'une série était sortie comme ça. Ça n'existe plus maintenant. Et j'ai beaucoup aimé dans un sketch l'attitude. Vous avez donc un couple, un homme, une femme. Et je ne sais plus lequel des deux entame la conversation et demande à l'autre « ça va ?» Et l'autre dit « ça va ?» Et le premier reprend, non, ça va pas. Hein. Il dit, ben si, ça va. Non, ça va pas, tu me caches quelque chose. Hein. Ben non, je t'assure, ça va. Et là, c'est parti en dispute. Alors qu'au départ, ça allait. Et on se demande, mais comment aller chercher les poux dans la paille, quoi? Pourquoi est-ce qu'on va se disputer quand il n'y a rien? Et des fois, ça partirait de là. Quelqu'un va pas bien. Et pour faire croire que c'est pas lui qui va pas bien, ben, il va tout faire pour que la faute retombe sur les autres. Et que finalement, il puisse dire aux autres, c'est vous qui allez pas bien, moi je vais bien. C'est terrible ça. Hein? Pour cacher son mal-être, pour cacher son malaise, on repousse la faute sur les autres. Pénina, elle a dû en vouloir à son mari. Hein? Qu'est-ce que tu lui donnes deux fois plus? Et pourquoi tu lui en donnes deux fois plus? Et c'était elle qui souffrait de ce sentiment de jalousie, alors que j'imagine qu'il pouvait les aimer toutes les deux de la même manière, différemment évidemment, mais de la même manière. J'en viens à la famille parce que on peut décliner ça aussi sous le rapport de la famille. Souvenez-vous que seul Dieu peut guérir de tout cela et seule la prière aura raison des souffrances du cœur. Croyez à la prière, Dieu agit encore. Le problème, c'est que quand on n'est pas valorisé aussi, on a tendance à créer le conflit. Le roi David en a connu quelques-uns de conflits comme ça, malheureusement. Et là, on parle des rapports parents-enfants. Voilà ce qui est arrivé avec un de ses enfants, Adonija. Adonija ne sera pas roi parce que la royauté va échoir à Salomon. Adonija, pourtant, lui, mérite, semble-t-il, c'est ce qu'il croit, tout autant que les autres, la royauté. Problème là aussi de David, c'est qu'il a eu plein de femmes et plein d'enfants. Comment vous faites après ? Comment vous les départagez pour le trône ? À une certaine époque, les rois de France faisaient pareil et ils donnaient un petit bout de leur trésor à tous leurs enfants. Bon, mais ça ne crée pas l'unité tout ça. Hein. Et donc là, évidemment, il y avait des problèmes à venir. Et notamment, celui-ci, lorsque Adonija se révolte, il va expliquer ce qu'il ressent. Je veux le lire tout en entier ce texte pour vous, dans le premier livre des Rois, au chapitre 2. Il est dit ceci à partir du verset 13. Adonija, fils de Haggith, donc une des épouses de David, alla vers Bathsheba, une autre épouse de David. Vous vous souvenez que c'est celle qui était mariée à Uri et David a couché avec elle, il a tué le mari, il a récupéré l'épouse. C'est la mère de Salomon. Elle lui dit, « Viens-tu dans des intentions paisibles ?» Manifestement, il était assez grincheux, ce Adonija. Et il répondit, « Oui. » Et il ajouta, « J'ai un mot à te dire. » Elle dit, « Parle. » Et il dit, « Tu sais C'est ça qui est intéressant. Tu sais que la royauté m'appartenait et que tout Israël portait ses regards sur moi pour me faire régner, mais la royauté a tourné et elle est échue à mon frère parce que l'Éternel la lui a donnée. Maintenant, je te demande une chose, ne me la refuse pas. Et il va vouloir épouser la dernière jeune femme qui s'est occupée de David mourant. Et Salomon comprend le piège. Et Salomon dit, après avoir pris la femme, il voudra la royauté. Et ça va en être terminé pour cet homme. Il va mourir. Il s'était déjà révolté. On avait calmé ses ardeurs. Et il y revient quand même parce que c'est jamais passé. Je pense qu'il y avait d'autres moyens d'être valorisé que la royauté, certainement. Et vous qui êtes parents, si vous avez eu plusieurs enfants, ils sont tous différents, mais vous les avez tous valorisés, je pense. Si vous ne l'avez pas fait, vous avez créé des blessures. Si vous ne l'avez pas fait, vous avez creusé des sillons terribles. Et c'est tellement dur de réparer derrière. Tous les enfants méritent d'être valorisés. Ils sont tous différents. Il y en a qui seront plus intelligents que d'autres. Je mets ça entre guillemets. Certains iront plus loin dans les études, d'autres pas. Certains seront manuels, d'autres seront intellectuels. Certains seront plus beaux physiquement que d'autres. Certains seront grands, certains seront petits. Certains seront d'un caractère fragile, d'autres d'un caractère fort. Mais si ce sont vos enfants, vous devez les valoriser. Tous, tous. Je me souviens de cette maman qui a eu dans sa propre famille 3 enfants. Et l'un était un petit génie. L'autre était moyen et le troisième franchement moyen. C'est dans l'autre ordre. Le génie, c'était le dernier. Donc on a commencé avec le premier et le premier, on l'a mis à la musique, etc. Puis au bout d'un moment, ça a foiré, ça n'a pas marché. Il n'était pas fait pour ça, il n'aimait pas. Le deuxième, on a recommencé, on a remis à la musique, et au bout d'un moment, ça ne collait pas, on a arrêté, et on s'est dit, le troisième, il ne touchera jamais un instrument. Sauf que le troisième, un génie musical, à 3 ans, il voulait faire de la musique. Et les parents l'ont regardé en disant, regarde-nous, bien dans les yeux, jamais. On a souffert avec les autres, jamais. Et il a fait des pieds et des mains. Et heureusement, parce que dès qu'on l'a mis à la musique, c'était un génie. Mais c'était un génie dans tous les domaines. À l'école, pas la peine de lui courir derrière. Lui, on peut vraiment dire qu'il poursuivait les études, tandis que les deux autres étaient poursuivis par leurs études. Ce n'était pas la même chose. Eh bien, vous avez la maman qui s'est battue, mais il faut voir, notamment avec le plus difficile, avec le plus fragile, pour qu'il ait une situation. Et grâce à Dieu, il a une belle situation. Et si la maman n'avait pas été derrière à lui casser les pieds, il n'y serait jamais arrivé. Tandis qu'avec l'un, il ne fallait même pas s'en occuper, avec l'autre, il fallait drôlement être derrière. C'est parce qu'elle les aimait. C'est parce qu'elle les aimait tous de la même manière. Là, il y a quand même eu des choses, certainement, qu'il faudrait retravailler là-dessus. Mais il me semble qu'il y a quand même eu, on peut l'imaginer, quelques lacunes, parce que chez David, ce n'est pas les seuls qui ont été d'un caractère fragile. On y viendra tout à l'heure très rapidement. Il y a eu Absalom, il y a eu Amon, il y a eu de la douleur. J'en viens à Adonija, mais j'en viens aussi à un autre qui nous parlera peut-être un petit peu plus, le fils prodigue, Luc chapitre 15. Vous en souvenez de l'histoire du fils prodigue? Quelqu'un qui demande au père sa part d'héritage, il prend tout, il part, il dépense tout, et quand il n'a plus rien, il revient. Mais le frère aîné, lui, il n'a jamais bougé, et lui, il est en colère. Qu'est-ce qu'il dit? Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et il parlera de son frère notamment. Il dira, et quand ton fils, qui a mangé ton bien avec les prostituées, revient, tu fais la fête pour lui. Et il refuse d'entrer au banquet, il refuse d'entrer au festin. Qu'est-ce qui se passait entre les deux? Le père, il n'en revient pas. Et il va dire à son fils aîné, mais qu'est-ce que tu me dis là? Je t'ai jamais donné un chevreau? Je t'ai jamais rien donné pour que tu profites avec tes amis? Mais dis-moi, tout ce que j'ai, c'est à toi. Pourquoi tu t'es pas servi? Pourquoi tu n'as pas pris? Tu avais tout à disposition. Qu'est-ce qu'il y avait dans la tête de ce garçon, de cet homme, pour qu'il soit à ce point frustré, à ce point dans un état de mal-être et qu'il estime que lui, il n'a rien eu et que son frère, il a tout eu. Je ne sais pas si là aussi, il y a eu une défaillance, peut-être pas, hein, une défaillance des parents, mais on comprend l'importance des parents. Sois un modèle, dira Paul à Timothée, en parole, en action, sois un modèle. Vous qui êtes parents, vous serez un modèle jusqu'à votre mort pour vos enfants. Jusqu'à votre mort, très certainement. Je rencontrais un vieux monsieur il y a quelque temps, plus de 90 ans, j'étais triste. Il me dit, regardez la photo de mon fils, c'est une vieille photo, hein. Mon fils à qui je parle plus. Un fils parle plus. Je ne sais pas ce qu'il y a eu, je ne sais pas quelles histoires, je ne sais pas quelles disputes il y a eu, mais certainement qu'il y a des raisons. On dit toujours qu'il y a des raisons. Mais quand on est chrétien, il y a une bonne raison pour se réconcilier. Et quand on est chrétien, il y a de bonnes raisons de croire que Dieu fait des miracles encore aujourd'hui. Amen. Et quand on est chrétien, il y a de bonnes raisons de croire que l'on peut rentrer dans cette bataille pour sortir vainqueur et pas chacun de son côté en disant chacun prend ses billes et puis on continue notre vie comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. J'en viens à quand même ce qui, et c'est ma conclusion, ce qui reste des mystères. Je vous avoue que j'ai pas l'explication de ça. Je vous parlais d'Amon, je vous parlais d'Absalom, propres enfants de David. Amon va faire quelque chose de terrible, va violer sa sœur, sa demi-sœur, sera tué par son demi-frère, Absalom. Quelque temps plus tard, Absalom prend le trône. David est obligé de fuir. Il dit « Fuyons devant Absalom, sinon personne n'aura la vie sauve. » Même lui craint pour sa vie. Et Absalom, le propre fils de David, va installer des tentes sur le toit du palais royal et il va violer les concubines de son père. Chose abominable. Moi, il y a des choses que je comprends pas. Comment on peut en arriver là? Il y a d'autres exemples. Vous avez le fameux Élie qui avait promis à Elkana et à Anne qu'elles auraient un enfant. Il a deux enfants. Il a deux fils. Tous les deux commettent des abominations devant le sanctuaire. Et Élie ne dit trop rien. Il n'est pas content, il n'est pas satisfait. Il va vers ses enfants en leur disant « Mais pourquoi agissez-vous de la sorte ? C'est pas bien ce que vous faites. » Il ira même jusqu'à leur dire « Mais si quelqu'un pêche contre un autre homme, on peut plaider sa cause devant Dieu. Et Dieu peut juger. Mais si quelqu'un pêche contre Dieu, qui intercédera pour lui ?» Ça ne les fera pas changer d'avis. Ils vont être rayés. Rayés du plan de Dieu. Rayés de leur ministère. Et ils mourront quelque temps plus tard. Samuel est enfant quand il voit ces choses-là. Et Samuel va gérer le peuple pendant 40 ans. Samuel aura des enfants. Il a un exemple irréprochable. Et la Bible dit que quand il sera vieux, le peuple demandera un roi plutôt que ses propres enfants. Ils iront vers Samuel en lui disant « On voit tes enfants agir, mais on voit de quelle manière ils se comportent et on n'en veut pas. » Et la Bible dit qu'eux aussi agissaient mal. Alors on préfère avoir un roi. Évidemment, c'était Dieu qui le rejetait au-delà des hommes. Comment vous expliquez ça? Pauvre Samuel, il a donné tout ce qu'il avait, il a fait tout ce qu'il a pu, et ses enfants ont pris des chemins de travers. On ne peut pas tout garantir, c'est sûr. Vous ne pourrez pas tout prévenir chez vos enfants, dans le sein de la famille, au cœur de la famille. On ne peut pas tout prévoir. À un moment donné, ce n'est pas de la faute des autres. C'est de la faute de la personne elle-même. C'est la personne qui décide de dérailler. Ce n'est pas les autres. C'est la personne qui décide de marcher de travers. C'est elle. Alors, on imagine la souffrance, évidemment, de David, d'Élie, de Samuel. Combien d'autres. Frères et sœurs, je crois qu'on a vraiment besoin que Dieu nous fasse grâce. Hein. Parce que pour moi, ce sont des énigmes, ça. Et dans nos propres familles, on vit quelquefois des énigmes, on ne comprend pas tout. Que Dieu nous fasse grâce et surtout que l'on se souvienne que le recours à la prière est d'une grande efficacité. Je crois à la puissance de la prière qui ressoude un couple qui se divise et qui se déchire. Je crois au secours de la prière qui réconcilie les enfants avec leurs parents. Je crois au secours de la prière qui réconcilie les parents avec les enfants. Je crois au secours de la prière qui ramène les petits-enfants vers leurs grands-parents. Et je crois au secours de la prière qui ramène celui qui s'égare
dans les voies de Dieu, dans les voies saintes, dans les voies divines. Je crois à cela. Dans la famille de Dieu, dans les familles chrétiennes, on devrait parler de rapports familiaux, jamais de conflits familiaux. Sauf que la réalité, c'est qu'il y a souvent des conflits aussi. On en a vu quelques-uns, vous savez qu'il y en a bien d'autres. Le fait est que l'on devrait et on peut compter sur la grâce de Dieu. Alors un exemple des Éphésiens, mais j'ai d'autres références à vous citer. Enfants, obéissez à vos parents, car cela est juste, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Des fois, on en veut aux enfants, on en veut aux parents, mais on ne comprend pas bien quelle part on a pris et mal pris, malheureusement. Donc, souvenons-nous de ces réalités-là. Je vous cite d'autres passages dans la première épître de Pierre. Est-ce que je vous l'ai noté ? Oui. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. L'Écriture nous dit, dans l'Épître de Paul aux Romains, notez la référence, Épître de Paul aux Romains, au chapitre 12 et au verset 18, même verset 17, « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, et s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Et au chapitre 14 et au verset 19, « Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. » Amen. Amen. On va terminer en priant. On va terminer en invoquant Dieu. Et vu le thème, je veux lancer un appel. On s'incline ensemble. Je veux lancer un appel à plusieurs, parce que je suis persuadé que on n'a pas abordé principalement la doctrine, on est dans le côté très pratique de la vie chrétienne. Et je crois que si Dieu a parlé, il n'a certainement pas parlé aux absents. Certainement pas. Il a parlé à ceux qui sont bien présents. Alors je m'adresse à vous qui êtes en conflit. Vous avez des rapports conflictuels avec votre conjoint, un mari avec sa femme, une femme avec son mari. Vous êtes en conflit avec vos enfants. Vos enfants sont en conflit avec vous. Des frères et sœurs sont en conflit, ne se parlent pas, ne se parlent plus. Ou alors c'est l'indifférence, ou alors on s'ignore, ou alors on fait comme si tout allait bien et on évite de parler des sujets qui fâchent. C'est pas bien, frères et sœurs. Pour pas dire honteux, ça glorifie pas Dieu. C'est pas possible de continuer à assumer, à vivre des choses de la sorte. Il faut que Dieu règle ses problèmes et je crois que Dieu peut les régler aujourd'hui. Dieu peut faire quelque chose maintenant. Dieu peut agir maintenant. Vous en avez besoin. Comment voulez-vous vivre votre vie avec Dieu, votre marche avec Dieu en continuant ainsi? On a vu que pour Noé, ça a marché. Pourquoi? Parce qu'il a obéi à Dieu. C'était sa priorité. Et il a voulu sauver sa famille. Il a voulu sauver les siens. Par nos actions, on peut perdre quelqu'un, on peut être une pierre d'achoppement. Par notre attitude, on peut détruire quelqu'un qui nous est cher, quelqu'un que l'on aime pourtant. Alors que Dieu nous fasse grâce. Je m'adresse à vous qui avez besoin de faire la paix avec Dieu déjà et de faire la paix avec ceux avec qui vous êtes en conflit. Si vous voulez réussir la réconciliation, il faut déjà vous réconcilier avec Dieu. Si vous voulez que ça marche, il faut le croire de tout votre cœur et il ne faut pas tarder à aller trouver les personnes et à tout régler tout de suite, dès la fin du culte, dès cet après-midi. Il faut le mettre en œuvre. Et je crois que Dieu va vous faire grâce et Dieu va agir. On a souvent manqué de patience. On a souvent eu l'impression de ne pas être valorisé. On a souvent eu l'impression d'être mis à la marge, d'être mis de côté. Trop de différence de traitement entre les uns et les autres. Et puis, dans le fond, on n'a pas compris qu'on était tellement riche. Naître, vivre dans une famille chrétienne, mais c'est une richesse incroyable. Et on a méprisé ces choses-là. Alors je m'adresse à vous qui avez besoin de retrouver ce chemin de la grâce, ce chemin de la prière, ce chemin de la rédemption, ce chemin de la vie, ce chemin de la paix, ce chemin du bonheur. J'aimerais prier pour vous. J'aimerais que l'Église puisse prier avec vous et demander ensemble au Seigneur sa grâce. Alors vous qui êtes concernés, levez-vous à votre place, s'il vous plaît. Restez debout devant votre chaise, mais levez-vous et on va prier maintenant. vous qui êtes en conflit, vous qui êtes en dispute, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il faut que les choses s'arrangent, il faut que les choses se réconcilient, il faut que les choses tournent dans le bon sens. S'il vous plaît, levez-vous maintenant, prenez cette décision de faire le pas de la foi, de croire que Dieu va agir maintenant. Ne résistez pas à vos raisonnements, ne résistez pas à l'appel de Dieu, ne résistez pas à tout ce qui brûle, à tout ce qui fait conflit au-dedans de vous, mais soyez vrai. Et tant pis si celui avec qui vous êtes en dispute est à côté de vous, tant pis s'il vous voit vous lever, tant pis, ou plutôt tant mieux. Mais tant pis, c'est le sentiment qui vous habite. Vous ne voulez pas révéler votre mal-être, vous ne voulez pas révéler votre souffrance, vous ne voulez pas révéler votre angoisse, vous ne voulez pas révéler que le problème vient de vous et pas des autres et pas de l'autre. Alors j'aimerais prier pour vous, j'aimerais demander à Dieu sa grâce sur votre vie. Faites-le maintenant, levez-vous, croyez à la puissance de Dieu, croyez que Dieu va agir, croyez que Dieu va intervenir. C'est un appel divin, c'est un appel solennel, c'est Dieu qui vous tend la main, c'est Dieu qui vous interpelle. Il vous réclame maintenant, il faut faire le pas de la foi. Ne résistez pas, je vous en prie, ne résiste pas. Mon frère, ma sœur, ne résiste pas dans cette histoire-là, mais lève-toi, c'est le temps de la grâce. C'est le temps de la grâce, on sait quel temps on est en train de vivre maintenant, et on ne sait pas ce qui arrivera demain. Ne pas choisir maintenant, c'est se fermer peut-être la porte pour toujours. Résister aujourd'hui, c'est s'endurcir demain. Ne résistez pas maintenant. Lève-toi, levez-vous, vous avez besoin de faire ce pas de la foi maintenant. C'est le temps de Dieu, c'est Dieu qui vous interpelle. J'en suis persuadé, c'est Dieu qui veut faire quelque chose dans votre vie maintenant. C'est Dieu qui veut restaurer l'amour, restaurer le pardon, restaurer les sentiments. C'est Dieu qui est capable de faire cela. Il n'y a que Dieu qui a uni et il n'y a que Dieu qui peut réunir à nouveau. Dieu ne désunit jamais, c'est pas vrai, c'est le diable qui désunit. La volonté de Dieu, c'est d'unir et de réunir encore. Alors quelqu'un qui a besoin de faire ce choix, qu'il se lève encore et on va prier ensemble. On va croire que Dieu va agir et que Dieu va se manifester maintenant. Alléluia.